Nous allons lire quelques versets. Nous allons lire dans le psaume 131. Je vous encourage, comme je le fais régulièrement, à noter peut-être les textes qui vous permettront à votre tour de méditer ou de revenir sur le partage, car nous ne faisons souvent qu'ébaucher un sujet. Dans le psaume 131, qui porte dans ma Bible le titre « Croître dans la grâce », David est roi, et regardez ce qu'il dit, regardez ce qui est important pour lui, je ne sais pas si c'est important pour vous. Dans le psaume 131, des rois n'ont jamais certainement fait cette prière, je ne le pense pas, mais David connaissait Dieu. Si vous avez lu ces psaumes, vous le savez, il connaissait le Seigneur. Et dans le psaume 131, il nous communique par le biais du Saint-Esprit cette pensée. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, nous pourrions mettre notre prénom, ça ne serait pas un grand péché. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. J'ai l'âme calme et tranquille. Dans le psaume 116, il est dans une autre expérience, c'est moins évident. Il est dans la difficulté, il est dans l'épreuve. Mais comme il connaît Dieu, il sait ce qu'il a à faire et il le fait. Psaume 116, verset 1er, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. » Et là, il parle à son âme au verset 7, c'est un peu la clé de cette exhortation. « Mon âme, retourne à ton repos. » Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous saisissiez ce verset. « Mon âme, retourne à ton repos. » C'est beau quand nos pensées sont captives à l'obéissance. « Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. » Enfin, on voit que il n'est pas au meilleur niveau là. « Mais il fait un acte de foi et il ordonne à son âme de retourner à son repos. » D'ailleurs, dans la version de la psaume 131 qu'on a lu, il est dit « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. » Dieu sait où nous en sommes. Il le sait très bien, il sait mieux que nous où nous en sommes. Nous, parfois, nous croyons que nous sommes sur tel endroit du chemin. C'est pas ça. On n'est pas tout à fait au milieu. On est peut-être sur le bord. Nous, si vous avez lu votre Bible, parce que je dois le dire, je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils lisent avec la tête, ils lisent de temps en temps, ils lisent à l'église. Mais quand même, je voudrais que nous comprenions bien la différence entre lire, parce qu'il faut lire, parce qu'on s'imagine qu'en lisant, eh bien, on est spirituel, et puis méditer la parole de Dieu. Heureux l'homme qui médite. Je sais, je l'ai fait. Je l'ai fait en tant que pasteur, voyez comme c'est beau. De lire la Bible, parce qu'il me fallait la lire, parce que j'étais pasteur, et parce que ça me rassurait en fin de compte. Mais je lisais la Bible. Mais c'est là, c'est grave. Je le sais, ne vous inquiétez pas. Je ne juge personne. Mais quand nous lisons la parole de Dieu de bout en bout, nous savons que la volonté de Dieu, c'est que tous ses enfants, pas que les, je ne parle pas des serviteurs et des gens qui ont donné des capacités, non, avant d'être des serviteurs et des servantes et des ouvriers et des athlètes, on pourrait prendre toutes les images que le Seigneur utilise, avant d'être un serviteur, un évêque, etc., nous sommes ses enfants. Tous. Et même il y aurait quelqu'un qui, au milieu de nous qui est bardé de cet ou huit dons particuliers, je suis obligé de vous dire, vous êtes d'abord son enfant. Nous sommes ses enfants. Nous voyons tout le long de la Bible, même le premier jour de l'homme sur la terre, c'est le septième jour de la création où Dieu a créé l'homme. C'est le jour du repos. L'homme a été créé, non pas pour des commandements, et pourtant ce matin je lisais le psaume 119, c'est quand même impressionnant comment David soupire après la connaissance des ordonnances, des commandements, il se réjouit. Lisez le psaume 119. Vous aimez le lire le psaume 119 ? Ou il est trop long ? Quand vous n'avez pas envie de lire la Bible, lisez le psaume 119 en entier. Après, vous aurez envie de lire autre chose. Mais vous voyez combien le cœur de David soupire, il veut connaître les ordres de Dieu. Ce ne sont pas des ordres. Je l'ai souvent dit, les commandements de Dieu ne sont pas des ordres, des ordonnances. Les commandements de Dieu sont des moyens bénis pour être en communion avec lui. Souvent on dit, voyez, moi je lis, vous comprenez bien que j'aime lire, je lis les commentaires de certains docteurs, de théologiens, de temps en temps je lis. Et voyez, par exemple, j'ai lu dernièrement qu'un théologien disait que voilà, là, il disait exactement ceci, la Bible est un livre de théologie systématique. Vous voyez, c'est bien. La Bible est un livre de théologie systématique qui indique ce que nous devons croire et faire. Et moi, j'ai dit non, c'est pas ça. La Bible, c'est le témoignage d'hommes et de femmes qui ont expérimenté la communion avec Dieu. Voilà ce que c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est pas fait pour la tête. La parole de Dieu, c'est fait pour le cœur. Notre vie n'est pas faite pour des commandements, même si les commandements sont tous excellents. Tous les commandements de Dieu sont intelligents. Si vous vous débattez avec un commandement, c'est que vous ne connaissez pas Dieu ou que vous n'avez pas mûri. Au départ, c'est normal. C'est normal, ne n'y voyez pas de l'immaturité. Mais toutes les ordonnances sont intelligentes. Et c'est pour ça que ces ordonnances sont faites pour la communion. Notre cœur, il n'est pas fait pour des commandements. Les commandements sont faits pour la communion avec Dieu. Ce matin, en fait, si vous devriez mettre sur un papier l'attribut qui vous vient en premier pour parler de Jésus suite à ce moment qu'on vient de passer ensemble, bientôt une heure, on a prié, on a chanté, on a partagé des dons spirituels, on a écouté la louange de certains frères et sœurs. Si vous deviez prendre un crayon et dire, voilà, pour moi ce matin, le Seigneur Jésus, c'est conseiller. Dit, voilà, cette semaine, peut-être j'ai été touché par un conseil du Seigneur. C'est vrai que notre Dieu s'appelle conseiller, etc., etc. On pourrait, je pense, tous le faire. Ça serait une bonne expérience. Le Seigneur porte ses regards sur ceux qui ont le cœur brisé, dit Esaïe, et sur celui qui craint la parole. Ça veut dire le cœur brisé. Ça veut dire que lorsque je me suis peut-être mal comporté, c'est ça le cœur brisé. Je réalise que je me suis trompé. Je réalise que j'ai péché. C'est ça. Voici sur qui je porterai mes regards. Parce qu'il y a des gens, ils ont le cœur brisé à cause de leur péché, mais ça ne les approche pas de Dieu. Vous comprenez bien. Ça les éloigne de Dieu. Mais lorsque Dieu dit « je porterai mes regards sur celui qui a le cœur brisé », c'est celui qui est malheureux à cause de son péché. Oui, par contre, moi, je ne peux pas l'appeler le bienveillant, je ne peux pas l'appeler le conseiller, je ne peux pas l'appeler le protecteur. Cette semaine, je me suis trop éloigné de lui. Il faut que je retrouve la crainte de la parole de Dieu. Mon âme retourne à ton repos. David, la semaine dernière, en lisant les rois et Samuel, vous savez, à côté du chapitre 1 de Samuel 1:17 où il a tué Goliath, j'ai mis 12 textes, mon petit crayon en papier, où David s'est vraiment loupé. Pour que je n'oublie pas que la grâce de Dieu, c'est pour faire des choses bien, des exploits, parfois même. Mais la grâce de Dieu, c'est aussi pour retrouver la communion quand on l'a perdue. La grâce de Dieu, ce n'est pas que pour faire des trucs bien. La grâce de Dieu, c'est aussi pour retrouver la communion avec le Seigneur. Mon âme retourne à ton repos. Nous utilisons presque toujours ce texte de Matthieu 11, 28 à 30, ce texte qui est connu dans le monde entier par tous les chrétiens et pourtant qui n'est pas vécu par tous les chrétiens. Lorsque Jésus dit et répète, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous savez ce qu'il ajoute ? Moi, je sais que j'avais besoin de ça. J'étais en Polynésie à l'époque, vous savez, j'en ai déjà parlé, cette époque où ça n'allait pas, et je devais prêcher sur ce texte. Enfin, j'avais à cœur de prêcher sur ce texte. C'est Matthieu 11, 28, on peut y aller parce qu'on le connaît. Et vous savez, c'est délicat quand vous prêchez quelque chose que vous ne vivez pas, que vous ne vivez plus. C'est bien de le dire ou c'est pas bien ? Et ce soir-là, cet après-midi-là, j'étais dans mon bureau, je lisais ce texte, je pense qu'il me fallait prêcher dessus. Et je dis, Seigneur, tu vois, je vais prêcher sur quelque chose que je ne vis pas. Et même, j'ai rajouté quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a tellement longtemps que je ne le vis pas que j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vécu. Vous voyez un peu d'état dans lequel j'étais. Vous savez, c'est dur de vivre ça, c'est dur. Et j'étais là, et bien sûr, j'ai pris mon papier, mes crayons, comme je fais d'habitude. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et moi, je rêvais, bien sûr. Je rêvais de ce repos. Et je dis, tu vois, je suis avec toi, je sais que je suis sauvé. Je pense qu'à l'époque-là, je correspondais bien à la prophétie qu'on a entendue ce matin, j'aurais été sauvé, c'est sûr, 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 ça c'est sûr. Mais peut-être qu'au travers du feu. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a montré qu'il y avait deux repos. Vraiment, il y a deux repos. Mes frères et sœurs, il faut qu'on le comprenne bien. L'ennemi fera tout pour nous aveugler. Parce que s'il y a bien une chose que le Saint-Esprit veut, que Dieu veut, c'est que ce repos du salut, parce qu'il est dit « je vous donnerai le repos ». Vous entendez, mes frères et sœurs ? Il y a un repos qui est un don. Le salut, c'est un don. Personne ne peut payer le salut. Personne. Ça n'a pas de prix. Dieu donne le... Venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais au verset 29, il y a un autre repos. Et c'est cela que l'ennemi a essayé de me coincer à moi aussi. Au verset 29... Jésus, là, ne nous invite pas à nous approcher de lui. Normalement, c'est fait et normalement, ça devrait s'y rester. Beaucoup trop de gens font des allers-retours dimanche après dimanche. Quand Jésus dit « venez à moi », c'est pas « repartez ». C'est « venez à moi » et « restez ». Qu'est-ce qu'il rajoute ? C'est une image qui m'a délivré, libéré. Et ma vie a changé quand j'ai médité ce verset que je connais par cœur en plus. Prenez mon joug, dans la version d'Arby, il est dit, apprenez de moi. Recevez mes instructions. Regardez, il y a deux choses maintenant. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car, il aurait pu dire, je suis le Dieu tout-puissant, Isaïe a prophétisé que je serai le Père éternel. Non, non, non. Jésus, encore une fois, nous fait vérifier sa bonté. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ce repos, il ne nous le donne pas, c'est nous qui le trouvons. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez compris cette vérité. Il y a deux repos. Le repos de l'âme. Je suis sauvé, son sang m'a lavé, je suis purifié, etc. Et il y a un repos que l'on trouve sous ces deux conditions, de rester bien sûr. Mais rester, ça veut dire que je prends le joug. Le joug, beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'est un joug. Vous savez, un joug, c'est une pièce de bois qui unit ensemble deux animaux. Quand j'étais petit, nous, moi, je voyais tout le temps dans là où j'habitais des bœufs liés ensemble, des vaches qui allaient chercher du foin, etc. Prenez mon joug. Un joug, ne commencez pas avec ça. Vous voyez comment les gens sont limités, vraiment. Le joug du Seigneur, pourrait-il être terrible? Moi, je pense qu'il y a un autre joug un peu plus terrible que celui-là. Mais le joug du Seigneur, marcher à côté de mon Sauveur, marcher à côté de mon Seigneur, de mon protecteur, de ce Dieu bienveillant, de ce conseiller, est-ce que c'est difficile? Prenez mon joug. Le joug, c'est l'image de quoi un joug? Alors, il y a deux images en vérité. C'est l'image de l'unité. Je suis uni à côté, avec celui qui m'a sauvé, et c'est l'image du service, car deux vaches, deux bœufs, deux mulets, n'importe, quand on attelait ensemble, ils savaient un truc sûr, c'est qu'ils allaient aller bosser. Ça, ils le savaient. C'est donc l'image de cette unité, je suis uni au Seigneur, oui, malgré le fait que j'ai le repos de l'âme, il me faut le repos de la foi. Le repos de la confiance, mes frères et sœurs. Mon âme, retourne à ton repos. David a commis des erreurs, mais des trucs graves. Et pourtant, vous pouvez lire la Bible tant que vous voudrez. C'est le seul livre au monde qui parle. Je crois que c'est le seul homme dans la Bible où il en est parlé. Dans les 40 livres, il est parlé de David. Dieu a voulu que l'on parle de ce berger dans 40 livres de la Bible. Et chaque fois que Dieu nous parle de David, vous avez vu comment il a marché, mon serviteur David? Pardon? Tu as vu comment il a marché? Ah, des rois. Tu as vu mon serviteur David, comment il a marché avec intégrité toute sa vie? À part une fois, il est dit, sauf dans l'affaire de Uri le Hessien. Bon, quand même. Mais moi, je trouve ça merveilleux, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous réalisez. Parce que David connaissait Dieu, lisez mais relisez ses psaumes, méditons-les ensemble. Prenez mon joug. Beaucoup de chrétiens sont en vrac, mais vraiment c'est pitoyable. Moi, vous savez, hier j'ai eu quelqu'un au téléphone d'une église à l'étranger. L'église est dans... Mais c'est la preuve. L'église est tellement en déliquescence que les gens n'ont jamais expérimenté ça. Est-ce que Jésus nous aurait menti? Est-ce que Jésus aurait exagéré? Quand le Seigneur dit, après qu'on ait obtenu le salut, je vous donne le repos, ça c'est un don, il faut dire merci. Vous avez dit merci au Seigneur aujourd'hui pour le salut? Si vous dites jamais merci au Seigneur pour le salut, c'est que vous ne devez pas être beaucoup sauvé. Je vous le dis. Quand vous êtes sauvé, vous avez besoin de dire merci. À mi-voix, à haute voix, je ne parle pas pour ceux qui ne prient pas à haute voix. Mais vous avez besoin de dire merci. Mais après, il y a ce repos qui dépend absolument de cette proximité. Je marche avec lui. D'ailleurs, il le dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et si vous êtes toujours fatigué, si vous êtes toujours épuisé, je ne parle pas de la fatigue du jour, à la fin de la journée, quand on a travaillé, si on s'est levé à 4h du matin, si on se couche à 11h, il y a la fatigue du jour. La Bible parle de la fatigue du jour. Je ne parle pas de la fatigue du jour, celle-là, elle est même saine. Je parle de cette fatigue intérieure. Vous savez comment on peut être dans le repos tout en travaillant. Mais vous l'avez déjà vécu. Vous travaillez, moi j'ai travaillé sur des chantiers, etc. Ou n'importe quoi, vous travaillez avec la pelle, la pioche. Vous êtes dans le repos et vous pouvez être dans votre lit, couché, complètement agité. Oui ou non? Bon, mais ça c'est facile à comprendre. Mais lorsqu'un homme est fatigué, lorsqu'on est agité, qu'est-ce que Dieu dit? Prenez mon joug, prenez, recevez ou apprenez. Ce sont des verbes actifs qui nous responsabilisent. C'est de ma responsabilité de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je reçoive? Comment ça va se passer? Oui, David, mon âme est comme, je suis comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Alléluia, mais ce n'est pas toujours ça. C'est beau quand si ce matin vous pouvez dire, mais moi je suis exactement dans ce cas. Je suis comme un enfant sevré. Vous avez vu ces gosses qui ont pris la tétée là ou qui ont mangé et qui dorment n'importe où, n'importe comment? C'est magnifique ça. Mais il y a des chrétiens, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont sevrés. Ils n'ont plus faim. Dieu les a nourris. Je suis venu pour vous donner l'abondance. Et il y a des chrétiens qui sont tout le temps dans le désert. Je sais que ça peut arriver. Je vous dis, l'homme qui a été le plus insensé, pour ainsi dire, David, dans la Bible, est un homme qui a fait des gaffes pas possibles. Il a même, quand je pense, qu'il a fait mentir son meilleur ami, Jonathan. Vous savez, par rapport à cette affaire du repas, etc. Faire mentir un de ses amis. C'est bien ? Il l'a fait. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'on s'entraîne parfois des casseroles. Mais on devrait quand même à un moment donné dire, ah, ça suffit. Mon âme, retourne à ton repos. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. L'apôtre Paul nous demande d'amener nos pensées captives à l'obéissance. C'est à nous de contrôler nos pensées. Ce n'est pas à nous de nous laisser diriger par ce que le monde voudrait nous imposer. Et pour ça qu'il faut qu'on se garde quand même. Parce que si vous dites au Seigneur, je vais être comme un enfant sevré et que vous regardiez des saletés à la télévision, ça va être très, 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 très difficile. Alors je voudrais, avant que nous prenions le PLV, je ne voudrais pas être long, je voudrais que vous compreniez avec votre âme, avec votre cœur, pas avec votre tête. C'est bien que vous puissiez dire, oui, on fait comme les habitants de Béret. Nous, à Saint-Agne, on est attention. Hein. On regarde si tout ce que M. Gaudit, c'est la parole. Mais faites-le et continuez à le faire. Mais il ne faudrait pas que ça soit que ça, votre communion avec Dieu. Il faut que vous vérifiez si ce que nous entendons est biblique. Il faut que nous écoutions tout ça, etc. C'est bien. Mais il faudrait que j'expérimente ce qu'on a chanté ce matin, parce que je crois que les chants sont inspirés aussi. Il te tend la main. Nous sommes ses enfants. Notre frère Jonathan Blanc, dans les chants, a introduit, à un moment donné, il te tend la main avec l'image de, et c'est sur mes notes, l'image de, du fils prodigue qui revient à la maison. Le fils perdu. Oui, on peut perdre le salut. C'est grave. Je le répète parce que dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, des pans d'église sont en train de basculer dans la doctrine de la sécurité éternelle, qui est une doctrine qui vient directement de l'enfer. Un chrétien peut perdre le salut. Et le fils prodigue a fait l'erreur, et bien il a fait l'erreur que font tous les gens qui rétrogradent, de penser que s'éloigner de la maison, s'éloigner de Dieu, s'éloigner du frangin qui est pénible, etc., eh bien, ça va me rendre service. Et il fait une erreur, ce qu'on appelle une erreur de jugement. Il s'en va, il gaspille tout, parce qu'on croit qu'on a les capacités intérieures de gérer. Et vous savez comment ça se termine, ça se passe, il se retrouve en train de garder des cochons, lui, le juif. Et là, il n'a pas le droit, bien sûr, de manger les carouges que les cochons mangent. Il n'a pas le droit. Et vous savez ce qui va se passer. Il va rentrer en lui-même. Ça serait bien si ce matin, quelqu'un qui est en train de manger avec les cochons, excusez-moi l'expression, c'est peut-être pas très gracieux, mais quelqu'un qui est en train de retomber dans le monde, rentre en lui-même. Mais attention, pour rentrer en soi-même, pour entrer en soi-même, il faut faire très attention. Alors, c'est dans Ésaïe, pardon. C'est dans Ésaïe 40, excusez-moi, je voudrais vous le lire ce verset. Quand il est dit, il ne peut pas rentrer en lui-même. Ah oui, c'est ça, Ésaïe 44, verset 17. Regardez bien ce texte, mes frères et sœurs, parce que quand même, des fois on se dit, mais pourquoi des fils prodigues des rétrogrades et même des chrétiens n'arrivent pas à rentrer en eux-mêmes. On prie pour des gens, oui ou non? Est-ce qu'on prie pour des gens pour qu'ils reviennent à eux? Et il y a quand même la réponse. Dans Ésaïe 44, le Seigneur dénonce avec beaucoup de sérieux les chrétiens qui sont tombés dans la stupidité d'avoir des idoles. Mais je répète, les idoles, ce ne sont pas que de la pierre ou de l'argent ou de l'or. C'est des choses qui prennent la place de Dieu. Alors on va prendre le verset 16. Regardez bien ce texte jusqu'au verset 20. Parce que retourner à son repos nécessite qu'on prenne le joug. Prenne le joug, il faut se débarrasser de notre, celui du monde ou celui du diable. Ésaïe 44, verset 16. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti, il se rassasie, il se chauffe aussi. Il dit, ah, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il se fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Regardez bien, frères et sœurs. Ça s'adresse à ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. Il faut prendre une décision. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Et regardez bien, il ne rentre pas en lui-même. Il ne peut pas rentrer en lui-même. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur des charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination. » Et si vous priez quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que vous êtes abominable aux yeux de Dieu. Voilà, je vous le dis mal, je sais. Mais si vous priez quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, vous commettez une abomination. Je me prosterne devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égard. Il ne sauvera pas son âme. Et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main. Il ne rentre pas en lui-même. Il ne peut pas rentrer en lui-même. Quelqu'un qui reste sous le joug du monde, sous le joug de l'ennemi, c'est pour ça qu'on voit des chrétiens qui sont toujours en vrac. Parce qu'en vérité, il y a une idole, quelque chose qui prend la place de Dieu. Le Seigneur, il est catégorique. Et dans Luc au chapitre 15, nous voyons au verset 16 une situation de déficience. Il est dans le manque. Et merci Seigneur pour toutes les fois où il permet le manque. Oui ou non? Est-ce que son père aurait pu lui envoyer de l'argent? Ben oui, mais c'était bien qu'il ne le fasse pas. Luc 15, verset 16, il est dans le manque. Peut-être que vous êtes dans le manque. Vous ne pouvez pas dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, je manque. Je manque de quelque chose. Eh bien, prenons le joug et recevons son instruction, celle que vous recevrez dans sa présence. Alors, regardez, Luc 15, vous avez compris, Ésaïe. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas rentrer en eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se repentir. Parce qu'en vérité, ils aiment leurs idoles. Si vous avez une idole dans votre vie, débarrassez-vous-en et jetez-vous avec une immense joie sous le joug du Seigneur. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, voilà, là il peut rentrer en lui-même. Il s'est débarrassé de tout, il n'a plus rien. Ça tombe bien. Et il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance ? Il ne parle pas de son frère, il parle déjà des employés. Et moi, ici, je meurs de faim. Il se prépare. Vous voyez, il y a une préparation. Comme là, vous pouvez vous préparer déjà pour prendre la Sainte-Seine. Vous voyez. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est bien quand on commence à réaliser qu'avant de pécher contre les gens, on a péché contre Dieu. Si vous commettez un mensonge ou un péché quelconque, ne vous imaginez pas que vous avez menti d'abord contre la personne. Vous avez d'abord péché contre Dieu. Je pense qu'on se tiendrait un peu plus à carreau, excusez-moi l'expression, si on réfléchissait à ça. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Lui, on en déduit que déjà il serait bien content de revenir à la maison comme un employé. Il se leva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, alors il commence son réquisitoire qu'il avait préparé avec quand il gardait les cochons. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et paf, le père intervient. Il finit pas son monologue, il intervient. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. Revêtez-le, c'est Jésus qui parle, le Seigneur. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. » J'ai souvent dit, ça c'est pour la petite l'humour, que le seul qui avait un problème, c'était le veau. Il n'avait pas qu'à être gras. Mais après, tout est bien dans l'histoire. Tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Rentrer en soi-même. Préparer cette affaire, on va prendre la Sainte Cène, c'est archi important que nous parlions à Dieu dans notre cœur, c'est archi personnel. Mais mes frères et sœurs, il faut retourner à notre Père qui nous aime, lui, il dit combien de serviteurs, il veut revenir comme un employé, comme un serviteur, même pas comme un ouvrier, les ouvriers avaient leur place, etc., leur petit appart, il revient comme un esclave. Il veut revenir comme un esclave avec toutes les gourdes que j'ai faites, avec tous les péchés que j'ai commis, si au moins il pouvait me reprendre comme un serviteur. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des serviteurs. Vous avez compris ce que je voulais dire. Nous sommes d'abord ses enfants. Vous le comprenez ça ? Nous sommes ses enfants. Même Paul, quand il dit à Timothée, à quoi tu dois ressembler, à un athlète, à un laboureur, à un ouvrier, à un vase, à un employé, etc., etc., il dit, toi donc, mon enfant. Lorsque vous vous regardez dans la glace, vous devez voir, non pas un serviteur, un pasteur, un diacre, tout ce que vous voulez, vous devez voir un enfant du Seigneur. Je suis son enfant. Et je dois revenir avec sérieux. Beaucoup de gens regrettent. Oh, je regrette, j'ai regardé des saletés. Mais enfin, ils vont recommencer ce soir. C'est pas de la repentance, c'est ça. Ça, c'est du regret. Parce qu'on sait très bien que c'est pas bien. Mais si je recommence à faire ce à quoi j'ai dit, pardon, 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 Seigneur, c'est pas bien. Si je recommence ce soir, vous pourriez me dire, non, mais attends, Gérard, c'est pas de la repentance. Je reviens. Je suis son enfant. J'ai besoin d'une parole. Remettez-lui vite là. Je pense qu'il y a eu une douche quand même avant. Mais remettez-lui vite. Vite. Une belle robe. Mais je crois, mes frères et sœurs, qu'il est temps qu'on soit tous bien habillés spirituellement. Parce que le Seigneur Jésus va revenir. Beaucoup ne sont pas prêts. Et quand Paul parle cette semaine, je réfléchissais bien sûr à des prédications, puisque je dois faire aussi des séminaires. Et je pensais à Paul qui, tout le temps où qu'il soit, demande aux chrétiens de ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, déchargez-vous de tous vos fardeaux, etc. Pourtant, à un moment donné, il parle des soucis, de ces soucis que lui donnent les églises. Et c'est quand même un souci pour un serviteur de Dieu de savoir que dans les églises, plein de gens ne sont pas rentrés dans le repos. Ils peuvent lire le psaume 116, oh, ce psaume c'est merveilleux, etc. Mon âme retourne au repos, j'en ai marre de ces angoisses, j'en ai marre de ces tribulations, j'en ai marre, etc., etc., etc. Je veux le repos parce que Dieu veut le repos. C'est pas moi qui vous le dis. Dieu veut que nous soyons tous dans le repos. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Quelle est belle cette parole. Vous avez une maison ? Vous avez une maison ou vous dormez sous les ponts ? Est-ce que vous avez une maison ? C'est une grâce d'avoir une maison ? Ben oui, c'est une grâce. Est-ce que ce soir, vous pourrez vous endormir avec le psaume 4, si je ne me trompe pas, avec ce verset, oui, Seigneur, tu es à côté de moi. Je suis à côté de ma femme, mais à côté de chacun de nous, il y a deux jougs. Ma femme sous le tien et moi sous le tien aussi. Quelle grâce. Voilà. Madame Martinez, si vous voulez que quelqu'un d'autre prêche ou Priscille, vous me le dites. Voilà. C'est pas grave. Apportez vite, 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 vite la plus belle robe. Mes frères et sœurs, moi oui, j'ai du souci. Les chrétiens qui ne sont pas prêts. Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire, oh oui, je fais une affaire sérieuse? Je crains la parole. Tu as un verset pour moi. Tu as une parole pour moi. Tu as une promesse pour moi. Oui, 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 oui. J'ai besoin de toi. J'ai pensé beaucoup, beaucoup j'ai pensé. Je ne pensais pas du tout prêcher sur ce sujet. Une histoire que nous croyons connaître, que nous connaissons avec notre tête et que nous pourrions réciter. Moi, je peux vous la réciter par cœur, la lire, même enfin, sans la regarder. Dans Luc, au chapitre 10, nous avons cette fameuse histoire d'une femme qui était une amie de Jésus, une amie très proche, puisque le Seigneur avait choisi, lorsqu'il habitait sur la terre, lorsqu'il devait dormir ou manger ou se reposer, il allait dans cette maison à Béthanie. D'ailleurs, ça serait très intéressant que nous fassions une étude sur tous les textes, tout ce qui s'est passé à Béthanie. Je l'ai fait dernièrement, c'est vraiment intéressant. On le fera peut-être si ça se présente. Il y a une situation importante. Jésus arrive, peut-être a pris le pourpoint, il arrive avec les apôtres et il faut leur faire à manger. Est-ce que c'est bien? Ben oui. Vous rendez compte, quel honneur. Le Seigneur qui arrive avec les 12, s'ils avaient beaucoup marché, ils avaient beaucoup faim. Ils arrivent à la maison et voilà, il faut faire à manger. Il faut servir Dieu. Servir Dieu, c'est... J'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des serviteurs d'abord. Mais quand même, si on ne devient pas des serviteurs après... Et pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas des serviteurs? Eh bien, c'est parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans leur repos. Mais tous les chrétiens doivent devenir des serviteurs. Si vous ne servez pas Dieu d'une façon ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre, etc., etc., vous faites partie de ces chrétiens qui n'ont jamais découvert quel était le talent que vous auriez dû avoir, et vous êtes dans un grave danger, car vous savez ce qui est réservé à ceux qui enfouissent le talent. Parce que c'est une chose d'être sauvé au travers du feu, comme on l'a entendu ce matin. Mais il y a des gens, ils ont tellement exagéré avec leur paresse, que là, ils sont perdus. Parce que Jésus dit à ces gens, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Servir Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe. Laissez-moi finir. Jésus va répondre à Marthe qui était contrariée parce que sa sœur ne l'aidait pas. Elle était sûre d'elle. Elle était sûre de son coup. La preuve, c'est qu'elle va faire quelque chose de bien, parce qu'on a souvent critiqué Marthe, moi je trouve que ce n'est pas bien. Elle va faire ce qu'il faut faire. Elle ne va pas attraper sa sœur. Elle va en parler au Seigneur. Et vous savez, bien des histoires seraient évitées si à la place d'aller parler aux frangins et aux frangines, nous en parlions d'abord au Seigneur. Et ce qui fait que cette femme était vraiment spirituelle, elle n'a pas dit à sa sœur, écoute, j'ai un truc à te dire. Elle est allée auprès du Seigneur, elle était sûre d'elle, puisqu'elle va se permettre de faire quelque chose qui n'était pas dans sa nature, elle va faire un reproche au Seigneur. Et à sa sœur en même temps, il y a des femmes qui savent parler. Luc chapitre 10, verset 40, « Seigneur, cela ne te fait-il rien, que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Elle fait un reproche aux deux. C'est sûr, elle était dans son droit, c'était la sœur aînée, elle servait le Seigneur Jésus, c'est extraordinaire. Elle aura certainement des récompenses, même par rapport à cette affaire-là. Et Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites, pourquoi? Pour beaucoup de choses. J'ai entendu un jour un pasteur qui avait cité pour peu de choses. Non, c'est, dans votre Bible c'est comment? C'est beaucoup de choses, écoutez bien, c'est la conclusion. C'est beaucoup de choses de servir Dieu. C'est beaucoup de choses. C'est archi important de servir. C'est beaucoup de choses, je ne vais pas vous l'expliquer de 36 000 façons. Quand vous servez Dieu, mais ne serait-ce que faire une visite à quelqu'un, ne serait-ce que de passer du temps dans la prière, etc. Servir Dieu, c'est beaucoup de choses, surtout quand on fait ce que Dieu nous demande. Mais il y a quelque chose de plus grand, vous entendez, de plus important que beaucoup de choses. C'est de s'asseoir dans sa présence. Vous allez me dire, mais monsieur Hugo, on le fait ? Vous êtes sûr que nous le faisons comme Dieu nous le demande ? Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. Marie, elle avait besoin, mais je ne sais pas si c'est votre cas, en tous les cas c'est le mien. Elle avait besoin d'une parole de Dieu. Les sept lettres aux églises qui représentent l'histoire de l'humanité, mais qui aussi représentent la dernière église, l'église de la fin des temps. Le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Et que même si l'apostasie est dans l'église, le Seigneur peut parler aux églises. Même dans l'église de la Odyssée où le Seigneur il est dehors, enfin il n'est pas trop loin, mais enfin il est quand même à la porte, c'est déjà grave. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Servir Dieu, c'est archi, archi important. Si vous ne servez pas Dieu, si vous ne faites pas quelque chose pour Dieu, je vous assure que vous risquez de ne pas être enlevé, parce que c'est révélateur que vous n'avez pas de communion avec Dieu, et n'essayez pas de m'embrouiller avec des excuses qui ne tiennent pas debout. Mais monsieur Gaud, j'ai pas le temps, je suis entrepreneur, monsieur Gaud, j'ai pas le temps. C'est pas vrai. Moi, je vous le dis de la part du Seigneur. Vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, c'est votre affaire. Mais je pense que tous les hommes doivent entendre cette parole du Seigneur Jésus-Christ, tu l'adoreras et tu le serviras. Marie représente les chrétiens qui sont automatiquement entrés dans le repos. Marie, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est assise à ses pieds. Voilà comment commence la vie avec Dieu. Je suis assis. Vous dites, oui, mais monsieur Gaud, il n'y a pas que ça, il y a le bon combat de la foi. L'apôtre Paul parle, il faut combattre contre la puissance des ténèbres, loi des mauvais jours, etc. Oui. Oui, il y a le combat. Mais si vous avez bien lu les Éphésiens, vous avez remarqué que l'apôtre Paul, quand il parle d'abord de notre position, il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui ou non ? Avant de combattre, comment combattre ? C'est pour ça que j'en ai marre de ces combats, j'en ai marre de ceci. Pourquoi des gens rétrogradés ? Parce que leur service, leur occupation, etc., leur talent, ils l'ont vécu sans le repos. Il y a des pasteurs, moi, qui des fois me demandent, monsieur Gaud, mais vous vivez bien votre ministère ? Dites-moi la vérité, monsieur Gaud. Vous êtes heureux dans votre ministère ? J'ai dit, ben ouais. Allez, dites-moi la vérité. J'ai dit, oui. Moi, je crois que quand on fait ce que Dieu nous demande, on ne peut pas être épuisé. Quand on fait ce que Dieu nous demande, on est heureux. Vous êtes heureux, dira Jésus, si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Marie, elle représente les gens. Alors, avant le bon combat, voyez, parce que c'est ça aujourd'hui. On parle du combat, le combat spirituel. Le combat spirituel, si vous n'êtes pas rentré dans le repos, eh bien, mettez-le de côté. Mettez-le de côté, vos combats, j'en ai marre. Si tu savais les combats que j'ai. Non. Moi, j'ai lu dans la Bible, tu combattras le bon combat de la foi. Et dans la version même originale, il est dit le beau combat de la foi. Si vous n'y êtes pas, eh bien, asseyez-vous. Asseyez-vous. Là, vous êtes tous assis. Moi, je suis debout. Je fais des efforts pour rester debout. Vous voyez, on devrait faire un inverse une fois. Dimanche prochain, je m'assierai, vous me mettrez debout pendant toute la prédication. Et vous comprendrez que le corps, oui, ça propose, oui, ça fatigue. Marie, elle est assise. Elle a besoin. Je suis sûr qu'elle avait envie de servir. Je suis sûr qu'elle a dû le faire après. C'est sûr. C'est sûr. Elles ont dû s'expliquer à la cuisine en faisant la vaisselle. Je suis sûr. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que le repos, c'est la meilleure part. Jésus est catégorique. Marie a choisi la meilleure part. Alors c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait passer un long moment à s'interroger, mais est-ce que j'aime m'asseoir dans sa présence? C'est quand même une question que je peux nous poser. Elle est assise, elle est dans le repos. Elle est tranquille, et ça vaudrait la peine, tiens, de prendre tous les textes dans les proverbes sur celui qui écoute, qui reposera tranquille, avec assurance. C'est écrit ça? Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille. Elle est assise, elle est tranquille. Et nous avons besoin de tranquillité. Le monde a compensé avec les tranquillisants. Mais je crois que le Saint-Esprit peut nous donner de la tranquillité. Elle est tranquille, elle est dans le repos, elle est en paix. Elle a besoin d'une parole. Oui, un besoin. Oui, il faut servir. Oui, il y a le Seigneur avec les 12 apôtres qui sont venus manger. Il faut faire à manger vite, vite. Mais mes frères et sœurs, je sais que dans l'église, il y a plein de boulot à faire, il y a plein de services. Mais vous ne pourrez pas, nous ne pourrons pas faire le service de la façon que Dieu veut si nous ne savons pas nous asseoir tranquillement dans sa prière. S'asseoir, elle est assise, tranquille, donc elle est à l'écoute. Comment voulez-vous écouter? Mais vous le savez très bien que quand ça tourne là-dedans, on n'écoute rien. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il y a des textes dans la Bible que quand Moïse leur a parlé, il priait depuis 100 ans, il priait pour qu'il y ait un libérateur. Moïse arrive, il leur parle, il est dit que l'angoisse les empêcha d'écouter. C'est écrit ou c'est pas écrit? L'angoisse et la dure servitude les empêcha d'écouter Moïse. Dieu leur envoie Moïse, enfin je veux dire, c'est pas rien, et ils n'ont pas pu l'écouter. Et il y a des choses à faire, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que c'est la fin des temps, que les temps sont difficiles, que vous ne pouvez pas vivre dans la victoire à celui qui vaincra. Et là, nous avons l'opportunité de dire, mais moi aussi, je vais faire la prière que David a faite. Mon âme retourne à ton repos, j'ai besoin de m'asseoir à tes pieds. Il y a une robe, il y a des anneaux, il y a des sandales, il y a tout. Dieu peut tout vous donner, les ruisseaux de Dieu sont pleins. Et là, elle reçoit, comme elle est dans cet état d'esprit, elle reçoit la pensée de Dieu. Quand Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Vous n'avez pas envie d'avoir la pensée de Christ par rapport à telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle... Eh oui. Elle reçoit sa pensée et, comme je le disais la semaine dernière en Espagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Deux jours avant que Jésus-Christ ne meure au calvaire, elle va dans la maison de Simon le lépreux, elle va faire ce geste que les apôtres vont très très bien comprendre, elle va répandre ce parfum de 300 deniers au pied du Seigneur et tout de suite on va lui faire de la peine et des reproches. Est-ce que c'était la pensée de Dieu? Mais elle l'a fait. Et quand je pense à Marie qui a répandu cela et que les apôtres, dans chaque évangile c'est différent. Une fois c'est des disciples, une fois c'est tous les apôtres et une fois c'est Judas. Mais qu'ils lui ont fait de la peine. Elle a compris la leçon, elle ne répond pas. Elle ne dit rien. Elle laisse Dieu répondre. Et deux jours avant que Jésus meure, elle va faire ce geste qui parfume les églises du monde entier depuis 2000 ans, donc il y a des parfums qui tiennent, je vous le dis. Elle va faire cette histoire, c'était la pensée de Dieu, Jésus va dire, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle savait que Jésus allait mourir. Elle l'avait à tous les coups reçu, une fois de plus, dans cet entretien, parce que je ne pense pas qu'il devait s'entretenir des gilets jaunes ou autres. Il devait s'entretenir de la croix. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la peine d'attendre qu'on soit mort pour dire si j'avais su. Parce que quand on va mourir, je pense qu'on risque, je ne sais pas comment ça va se passer, mais de dire j'aurais quand même pu faire des choses pour le Seigneur. Que je n'ai pas faites parce que je me suis laissé manger par le temps, etc. Mon âme, retourne à ton repos. J'aimerais que l'on puisse faire cette expérience ce matin. J'aimerais que nous répondions à cette exhortation. Mon âme retourne à ce repos. Le joug de Jésus est doux. Obéir à Dieu, ça vous fatigue, vous ne connaissez pas Dieu. C'est sûr, écoutez-moi, ne venez pas me faire de reproches à la sortie par rapport à ça. C'est la vérité. Si servir Dieu, si prier, si venir à l'église, si avoir une occupation dans l'église vous fatigue, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Je vous le dis avec cœur, vraiment. C'est que votre âme est malade. Le joug de Jésus, il est doux. Son fardeau, il est léger. Oui, je sortirai de ce temple tout à l'heure comme un enfant sevré. Et ce soir, je me nourrirai, je me rassasirai. Comme Marie a reçu un conseil, une parole, moi je veux recevoir une parole. Il y a quelqu'un qui veut recevoir une parole de Dieu dans ces moments d'intimité avec Dieu? Alors que ce moment de communion nous donne la victoire, ou nous renouvelle, ou nous restaure. Quand il est dit une grande grâce, peut-être que vous avez la grâce, eh bien Dieu vous propose une grande grâce. Ce que je vous dis, c'est biblique, je ne m'amuserai pas à déformer la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la grâce qui veut une grande grâce? Ah bon, Dieu peut me donner plus que ce que j'ai? Eh bien oui, je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Et le diable, il est là pour voler. Notre Père, nous sommes heureux de pouvoir t'appeler Père éternel. C'est vrai que nous ne sommes pas d'abord tes serviteurs, nous sommes d'abord tes enfants. Oui, nous sommes heureux, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Merci pour ces histoires qui nous montre combien tes bras sont toujours ouverts. Ils n'ont pas été ouverts qu'au calvaire, ils sont toujours ouverts, nous le savons. Que ce pain et ce vin nous permettent une fois de plus de réaliser qu'au calvaire, ce joug doux et léger d'actualité. Mon Dieu, aide-nous à écouter tes instructions, à recevoir tes instructions. Que ton nom soit béni, Seigneur.